France Culture.
France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. La guerre en Ukraine entre dans sa cinquième année. Le mythe de l'invincibilité de l'armée russe s'est dissipé. Le courage, l'obstination des Ukrainiens à défendre leur pays ont balayé les pronostics des experts. La nature même de la guerre et ses technologies ont changé. Les négociations entreprises par Donald Trump dès son retour au pouvoir ne mènent à rien, même pas un cessez-le-feu, sauf à prouver l'ascendant qu'exerce sur lui son homologue russe et multiplier les pressions sur Volodymyr Zelensky, dont la capitulation devrait permettre enfin l'envolée d'un fructueux business entre les deux empires. Les Européens, de leur côté, ont redécouvert la guerre sur leur propre continent et avec elle, leur vulnérabilité existentielle, militaire, économique et même politique. À Munich, samedi dernier, de façon plus douceâtre que J.D. Vance un an auparavant, Marco Rubio nous engonçait dans notre statut de vassaux, condamnés à payer leur propre défense, trop heureux de se plier aux injonctions MAGA, et il n'eut pas un mot pour la guerre, pour l'Ukraine, pour la menace que ne cesse de représenter la Russie. Quelle a été depuis la riposte des Européens? Ont-ils fait montre de leur détermination commune? Ont-ils progressé dans la coordination de leur budget militaire, dans les livraisons à Kiev des armements dont son armée a tant besoin, dans une moindre dépendance vis-à-vis de Washington? Hélas, rien de tout cela. Les exhortations d'Emmanuel Macron à plus d'autonomie stratégique ont été applaudies, mais les ministres allemands et polonais ont aussitôt souligné l'insuffisance des efforts budgétaires français. Le chancelier annonce son intention de faire de l'Allemagne la première puissance militaire européenne en termes conventionnels, tout en infligeant un coup d'arrêt au projet commun d'avions du futur. Jusqu'où ce refroidissement entre Paris et Berlin va-t-il modifier la donne ? Les discussions sur la dissuasion nucléaire vont-elles se poursuivre ? En soutien à l'Ukraine, le Royaume-Uni et la France ont lancé ensemble la coalition des volontaires. Leur coopération en matière de défense peut-elle aller plus loin ? Le Pentagone, de son côté, veut transformer l'OTAN en une version 3.0. Qu'est-ce que cela veut dire ? Si les Européens, presque unanimes, n'accordent plus la même confiance à l'allié américain, que signifiait alors la participation jeudi dernier à Washington à cette mascarade trumpiste, le Conseil de la paix? Deux pays membres de l'Union européenne y étaient, ainsi que, en tant qu'observateurs, sept autres et même une commissaire venue de Bruxelles. En tout cas, quatre ans de guerre ont modifié en profondeur les rapports de force géopolitiques en Europe. La perception en est-elle la même à l'est et à l'ouest du continent ? Ce matin, en tout cas, le Kremlin menace de continuer à bombarder l'Ukraine. Les Européens maintiendront-ils longtemps encore leur front largement uni ? C'est ce que nous allons comprendre ce matin depuis Berlin, grâce à Daniela Schwarzer. Daniela, vous êtes membre du directoire de la Fondation Bertelsmann et du conseil d'administration de l'Institut Jacques Delors. Depuis Bruxelles, Camille Grand, secrétaire général de l'ASD Europe, conseiller spécial au Conseil européen pour les relations internationales et maître de conférence à Sciences Po à Paris. Depuis Londres, je suis ravi d'accueillir Grégoire Ross, directeur des programmes Europe-Russie-Eurasie à Chatham House. Et depuis Varsovie, Jarosław Kujisz, désormais professeur à l'Université de Varsovie, chercheur associé en études russes et est-européennes à l'Université d'Oxford au Royaume-Uni. Camille Grand, Volodymyr Zelensky a accordé hier soir une interview à l'AFP. Il était évidemment lui aussi à Munich. Il a répété hier que l'Ukraine ne perd pas cette guerre, que son armée a libéré quelques 300 km² lors d'une contre-offensive ces derniers jours dans le sud. Et il explique ce que l'on sait, évidemment, c'est que Washington, tout comme Moscou, est pratiquement dans les mêmes termes, demande l'abandon du Donbass. Vous étiez, vous, à Munich. Comment avez-vous perçu la détermination des Européens à continuer à présenter un front uni?
Alors, une chose qui était très, très frappante à Munich, c'était finalement le décalage entre une délégation américaine qui parlait pas ou peu de l'Ukraine et qui restait dans son discours idéologique, qui était celui du secrétaire d'État Marco Rubio, sur la nécessité pour l'Europe de retrouver ses valeurs, et ainsi de suite. Alors que les Européens, du nord, du sud, de l'ouest du continent, de l'est du continent, étaient quand même tous très fermes dans leur soutien à l'Ukraine. Je crois que c'est un point commun à tous les Européens, avec sans doute l'exception d'un Orban en Hongrie. Et par ailleurs, cherchait, et ça c'est la nouveauté, plutôt que de commenter les positions américaines, on voyait des dirigeants européens qui cherchaient à formuler des propositions pour développer des solutions qui puissent permettre à l'Europe de prendre en main son destin stratégique. Alors ce qui était évidemment frappant, c'est qu'il y avait des nuances entre ces dirigeants, pas forcément des différences fondamentales, mais de vraies nuances entre ceux qui croient qu'on a encore besoin de l'Amérique pendant un certain temps et ceux qui, comme Emmanuel Macron, poussent pour aller rapidement vers une autonomie stratégique qui est possible.
Néanmoins, Camille, depuis samedi dernier, on n'a rien vu qui puisse, d'une manière ou d'une autre, concrétiser, matérialiser ce semblant d'élan commun.
Il y a quelques petites choses. Il y a eu une décision signée à Munich par 6 pays européens de lancer un programme de missiles dans la profondeur, qui est une des capacités où les Européens sont trop dépendants des Américains. Donc il se passe des choses, mais on voit effectivement qu'il n'y a pas une vision politique partagée entre un Merz qui dit au fond « soyons de bons alliés de l'Amérique pour garder le lien transatlantique » et ce sera utile si ça ne marchait pas, ce qui était un peu le cœur de son discours à Munich. Un Emmanuel Macron qui reprend le thème de l'autonomie stratégique et du soutien à l'Ukraine, mais avec une France qui n'a pas forcément les moyens de porter ce projet seul. Et d'autres qui, au fond, attendent un petit peu de voir comment la pièce va se jouer et jusqu'où est-ce qu'il faudra agir seul sans l'Amérique pour assurer la sécurité du continent.
Daniela Schwarzer, depuis Berlin et depuis la conférence de Munich où vous étiez bien sûr vous aussi, comment interpréter ce coup de froid entre le chancelier et le président français puisque il a été déclaré très ouvertement qu'il n'était qu'en fait, cet avion de combat sur lequel la France et l'Allemagne s'étaient accordés du temps d'Angela Merkel en 2017, je crois, mais en fait, cet avion de combat n'a aucune raison d'être, en tout cas pour l'Allemagne.
Oui, alors d'abord, je pense qu'on est dans une situation où il y a une convergence entre le chancelier allemand et le président français sur ce que sont les États-Unis, c'est-à-dire un partenaire pour l'instant, mais pas du tout un allié fiable dans l'avenir. Et à mon avis, c'est une base de coopération qu'on n'a pas eue de cette même manière avec la chancelière Merkel, parce que le chancelier Merz, il a dit dès le soir de son élection que la relation transatlantique a changé, et on voit de plus en plus à Berlin une convergence avec l'analyse que Emmanuel Macron avait beaucoup plus tôt, lors du premier mandat de Donald Trump, que les relations transatlantiques ne sont plus la base sûre de l'OTAN. Voilà, je pense là, c'est un élément qui est très important. En même temps, il y a comme on a pu le voir dans la presse ces derniers jours, mais aussi il y a quelques semaines, il y a un désaccord sur le projet du futur avion de combat européen, le FCAS. Et là, le chancelier a surpris également pas mal d'Allemands en remettant en question de la raison d'existence de cet avion dans une interview très récemment où il a dit peut-être la nature de la guerre, la nature du combat a changé d'une telle manière qu'il ne faut plus cet avion. Donc c'est une question très fondamentale. En même temps, il y a depuis très longtemps, au niveau de la coopération industrielle, et ça c'est pas du tout lié à la chance, au chancelier Merz, oui. Il y a des tensions entre les partenaires industriels dans ce projet. Et donc, je trouve vraiment, en fait, c'est très dommage qu'au niveau politique et au niveau industriel, on n'arrive pas à se mettre d'accord comment gérer le projet. Il faut aussi voir que l'avion, c'est un élément parmi d'autres, et les autres éléments semblent avancer bien. Et donc, à mon avis, on est au point, disons, où il faut avoir un moment d'honnêteté entre le gouvernement français et allemand pour définir l'avenir de l'avion, tout en protégeant les autres éléments du projet qui sont bien en cours.
Mais votre ministre des Affaires étrangères, M. Van de Poel, n'a vraiment pas mâché ses mots en disant, en gros, le discours d'Emmanuel Macron sur la souveraineté européenne, c'est très très bien, mais la France n'investit pas les efforts budgétaires à la hauteur de son verbe. Bon, et on sait effectivement qu'il a raison.
Bon, pour le moment, il a raison, mais si on regarde le bilan de l'Allemagne, il faut aussi voir que pendant très longtemps, même pas plusieurs années, mais même décennies, l'Allemagne n'a pas dépensé, même quand il y avait depuis 2014 le compromis au sein de l'OTAN de dépenser plus suite à l'annexion de la Crimée par la Russie. Les partenaires au sein de l'OTAN se sont mis d'accord de dépenser 2% du PIB. Ça n'a pas eu lieu en Allemagne. Là, nous sommes dans une nouvelle situation parce que même avant d'entrer dans le gouvernement, les partenaires de la coalition ont décidé au Parlement de changer nos règles budgétaires pour rendre possible des dépenses beaucoup plus importantes pour la défense. Et donc, pour une fois maintenant, l'Allemagne est dans une situation où à la fois le niveau de la dette publique le rend possible, mais aussi les règles budgétaires. Donc, à la fois le cadre légal et le cadre économique et financier le rend possible que l'Allemagne ait des dépenses pour la défense beaucoup plus importantes qu'avant. Nous sommes dans une période de rattrapage. Et évidemment, ce serait bien que tous les partenaires au sein de l'OTAN, notamment les grands pays, arrivent aux 3%, 3,5% plus 1,5% pour des dépenses liées à la défense, mais pas uniquement en matière de défense pure et dure. Ce serait bien, ce serait mieux, mais je comprends parfaitement que la France est dans une situation où il faut d'abord revenir à la croissance et à une consolidation budgétaire parce que la dette publique en France est très importante.
Oui, et ce qui a évidemment frappé les esprits à Paris, Daniela, c'est l'amorce d'un flirt assez rapproché entre votre chancelier et la première ministre italienne, Madame Meloni. Et donc, du coup, voilà, la France ne serait plus en quelque sorte ce partenaire privilégié, le membre essentiel de ce couple dont il me semble d'ailleurs qu'on a toujours exalté davantage l'importance à Paris plutôt qu'à Berlin.
Oui, il faut bien comparer la profondeur des relations parce qu'avec la France, l'Allemagne a des relations qui vont vraiment au-delà de ce qui a été lancé maintenant à la rencontre de Meloni et Merz en Italie. Ils ont signé des accords bilatéraux, oui, mais en même temps, je pense que la stratégie du chancelier, c'est effectivement de renforcer des relations bilatérales avec plusieurs pays, mais la relation avec la France, à la fois au niveau politique, au niveau administratif, au niveau de la coopération économique, du commerce entre les deux pays, de l'investissement direct et aussi dans le secteur de la recherche, il y a quand même une relation qui est tout à fait une autre. Mais tout ça n'empêche pas qu'actuellement, et ça je regrette beaucoup, il manque une dynamique politique où les deux leaders se mettent ensemble pour lancer une idée pour l'Europe, pour pousser les projets qui sont très urgents, à la fois en matière de défense. Il y a une seule exception, et je dirais c'était le projet de l'année dernière qui porte encore ses fruits cette année, une coopération renforcée en matière des initiatives pour le digital et la souveraineté technologique de l'Europe. Mais sinon, sur le plan géopolitique, il y a un vrai manque de leadership de Paris et Berlin ensemble.
Partons maintenant pour Londres, vous rejoindre Grégoire Rose. En lisant l'excellent hebdomadaire britannique The Economist, qui ne fait pas montre la plupart du temps d'une grande affection pour la France, j'ai découvert ce papier avec ce titre tout à fait délicieux. Règne désormais le sentiment irritant que la France avait raison et qu'en fait, Donald Trump justifie en fait le gaullisme à nouveau. Est-ce que ce constat, selon vous, imprègne désormais les milieux politiques ou diplomatiques britanniques ?
Alors c'est drôle que vous posiez la question, Christine, car c'est en fait le troisième article mettant De Gaulle en exergue en un an. Il y en a eu un dont on a beaucoup parlé en Allemagne, qui est apparu dans le Financial Times, puis dans Bloomberg, et puis cette semaine dans The Economist. Alors on blague à moitié, car c'était une semaine très grave en Grande-Bretagne, qu'il y a eu deux petites bombes lâchées en cette fin de semaine. La première, c'était l'arrestation inédite d'un membre de la famille royale,
bien sûr,
de l'ancien prince Andrew, maintenant Andrew Windsor Mountbatten, arrêté par la police, à présent relâché, mais c'était tout de même du jamais vu, et cet article dans The Economist. Et l'article, je pense, en tout cas, des échanges que l'on peut avoir à Londres avec différents milieux, diplomatiques, politiques, militaires, reflète assez justement l'état d'esprit à Londres pour différentes raisons. D'abord parce que l'article met le doigt sur trois réalités qui, je dirais, résument assez bien la position de la France. L'article souligne que la France avait raison, mais avait raison trop tôt. Qu'elle avait raison, mais qu'elle n'était pas crédible. Et qu'elle avait raison, mais qu'elle insupportait tout le monde. Donc c'était un peu drôle, mais c'était assez juste. Et au fond, en lisant l'article, on ne pouvait pas ne pas penser à ce vers d'Aragon. Vous savez, on peut être face à cet impossible choix d'être et d'avoir été. Et en fait, dans cette affaire, la France a été, et elle a été de manière très juste, car elle avait les moyens d'une ambition dans les années 60, dans les années 70. Et aujourd'hui, elle a une ambition que beaucoup partagent en Europe et surtout en Grande-Bretagne, mais elle n'en a plus les moyens. Et c'est ce que, du reste, l'article met en exergue, et pour des raisons que Daniela a très justement soulignées, de budget.
Néanmoins, Grégoire, ce qui est frappant, c'est qu'il y a ce rapprochement entre le président français et le premier ministre britannique, et il y a aussi un parallélisme dans leur affaiblissement respectif, et en particulier sur le plan économique, les mêmes problèmes budgétaires. Jusqu'où peut aller ce rapprochement franco-britannique par rapport à l'Ukraine, bien sûr ?
Vous avez raison, il y a une symétrie qui est assez saisissante. Il y a deux dirigeants qui sont, pour des raisons assez différentes, mais de manière néanmoins flagrante, qui sont faibles politiquement. Secondo, vous avez une économie qui a une structure assez comparable, avec un taux de chômage qui s'accroît en Grande-Bretagne, avec des problèmes énergétiques, même si la France exporte de l'énergie quand la Grande-Bretagne importe 20% de son électricité, et vous avez un taux de pression fiscale qui est au plafond, si je puis dire, à tel point d'ailleurs que, et ça, la presse s'en fait les choux gras et l'opposition tout autant, un certain nombre de cadres supérieurs et de fortune ont quitté Londres pour Dubaï et pour, dans une moindre mesure, pour l'Italie. Le sujet, c'est que les armées sont de nature assez comparable. Camille en parlerait bien mieux que moi, mais les armées britanniques et françaises sont beaucoup plus proches l'une de l'autre que les armées françaises et allemandes. D'abord pour la taille, l'expérience que ces deux ont de projection sur des théâtres d'opérations extérieures, Et troisièmement, la nature de la manière dont elles peuvent se projeter, c'est-à-dire des bataillons plutôt légers, capables d'être envoyés outre-mer en 2 ou 3 heures. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le SCAF dont parlait Daniela ne fonctionnera vraisemblablement pas, puisqu'on parle vraiment de deux projections stratégiques radicalement différentes entre la France et l'Allemagne. Le troisième point, je dirais, c'est que la Grande-Bretagne est une puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, tout comme la France. Et donc, il serait intéressant de ce point de vue-là, il y a eu une déclaration en juillet 2025, de la déclaration de Northwood, qui est un accord entre les deux pays, qui vise à accroître et à renforcer la dissuasion nucléaire, notamment au vu du contexte de menaces accrues venant de la Russie. Le président français tiendra un discours le 2 mars à Lille-Longue, en Bretagne, là où se trouvent les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la France, sur la politique de dissuasion nucléaire de la France. Et de ce point de vue-là, je peux vous dire que à Londres, tout le monde attend le contenu du discours avec impatience pour voir la place qui occupera la Grande-Bretagne. Mais on parle secrètement, en tout cas, on chuchote, d'un passage d'une dépendance nucléaire vis-à-vis des États-Unis, puisqu'aujourd'hui, sans le soutien des États-Unis, la Grande-Bretagne n'a pas vraiment de dissuasion nucléaire, et passer à une coopération renforcée avec la France pour réduire cette dépendance vis-à-vis des États-Unis.
Qui serait évidemment une étape majeure dans la redéfinition des rapports en termes de défense et en termes d'équilibre géostratégique en Europe. Jarosław Kujsz, vous êtes à Varsovie et votre pays, la Pologne, accomplit depuis plusieurs années maintenant un effort majeur en termes d'investissement dans la défense. La Pologne est d'ailleurs le premier pays bénéficiaire du programme d'emprunt commun mis au point par l'Union européenne, et ce pour renforcer en priorité, bien évidemment, son bouclier oriental. Comment interpréter la façon assez cavalière dont le ministre polonais de la Défense a dit, au fond, la France sait très bien, la France cause toujours, mais la France n'investit pas assez.
En effet, c'est un écho de ce que nous venons de dire sur les mots qui sont venus de Berlin, en effet, soit de Munich. Donc, il est vrai que maintenant, la politique polonaise, c'est toujours la sécurité avant tout, mais sous condition de calcul. Donc, on regarde les coûts politiques, les coûts économiques, mais c'est toujours l'effet décisif. Qu'il n'y a pas eu de blitzkrieg russe, et que l'Ukraine a tenu, elle tient toujours, mais la guerre transforme l'Europe. Ce qui est intéressant, et ce qui est d'ailleurs à entendre aussi dans notre conversation, c'est qu'on a, si j'ose dire, deux normalisations qui sont à l'œuvre au sein de l'Union européenne. À l'Ouest, on assume la guerre politiquement, financièrement, mais à l'Est, on passe de l'héroïsme au calcul. On vraiment quitte l'élan inconditionnel, on entre dans l'ère des coûts politiques, des coûts économiques. Il y a, on peut même se demander s'il n'y a pas de présomption que Kiev survivra, que le pari est vraiment fort que Kiev survivra. Donc la vraie question politique en Pologne, surtout sur la droite polonaise, et après. Donc on a des tensions politiques en Pologne, mais en même temps, ce qui est pas contesté ni par la gauche ni par la droite, en effet, ce sont les coûts. Pologne, comme nous avons dit, le pays avec un programme d'armement le plus ambitieux de l'OTAN, l'un des plus ambitieux de l'OTAN, niveau de dépenses inédit depuis 1989, on consacre plus de 4% de notre PIB à la défense. Donc c'est vraiment le niveau parmi les plus élevés de l'Alliance.
Mais cela veut dire, Yaroslav, que dans cette cartographie imposée, encore une fois, par 4 ans de guerre, vu de Varsovie, il y a une sorte de rivalité entre les puissances moyennes du centre et de l'Est de l'Europe, et ressurgissent en fait des querelles ou des blessures de l'histoire qui n'ont jamais été traitées.
Oui, oui, en effet, on regarde, parce que après 4 ans, les tragiques devenus quotidiens, la guerre devenue paysage, donc on a commencé vraiment avec les mots de Jarosław Kaczyński, le leader de la droite populiste a dit « mieux vaut être endetté qu'occupé par les Russes ». Donc c'était ça le début. Mais maintenant on regarde, on voit qu'avec l'Ukraine on a un nouvel acteur militaire et qui émerge dans la région, puissant et armé hors OTAN, mais cela suscite admiration et inquiétude en même temps. Donc l'équilibre change, on regarde ça avec attentivement et finalement aussi ce que tu, Christine, a mentionné, il y a toujours l'histoire qui est un problème assez important. Reste une blessure ouverte. Il s'agit des massacres des civils polonais pendant la Seconde Guerre mondiale qui demeure un sujet sensible qui est assez particulier parce qu'il n'y avait pas de réconciliation institutionnelle. Il y avait des gestes politiques forts entre les politiciens polonais et ukrainiens, il faut le souligner, mais pas de réconciliation institutionnelle à la franco-allemande. C'est un dommage, un vrai dommage.
Retournons à Berlin, vous rejoindre Daniela Schwarzer. Il est vrai que le travail de mémoire a été exemplaire entre la France et l'Allemagne. Et néanmoins, quand le chancelier Merz annonce les ambitions de l'Allemagne de construire, et il y a du travail, hein, une puissance militaire conventionnelle qui deviendrait la plus puissante du continent, bon, on a l'impression qu'à Paris, ça ne fait pas que des heureux.
Oui, et c'est un peu normal parce que la relation entre la France et l'Allemagne pendant des décennies, c'était toujours l'Allemagne la force économique et la France, notamment le pouvoir en matière de défense et de sécurité. Et il y a des éléments qui restent parce que la France siège au Conseil de sécurité de l'ONU. À sa frappe nucléaire, ce que l'Allemagne n'a pas et n'aspire pas d'avoir. Et donc, il y aura encore, même si l'Allemagne aura l'armée conventionnelle la plus puissante du continent, une asymétrie considérable entre les deux pays. Et ça s'est vu et voulu par Berlin, parce qu'il n'y a pas du tout un débat sérieux sur une arme nucléaire pour l'Allemagne, mais par contre, une discussion autour de la question comment est-ce que l'Europe en tout peut se protéger. Et à mon avis, la tâche pour le chancelier allemand est, pendant les mois à venir, d'expliquer bien aux Européens et aux Allemands, d'ailleurs, comment l'Allemagne, qui est renforcée d'un point de vue militaire, va se positionner au sein de l'Union européenne. J'ai bien vu les réactions par rapport au discours de Friedrich Merz à la conférence de Munich, et il y a une différence entre la lecture en France et la lecture en Allemagne, parce qu'en Allemagne, le discours a été lu comme porté par un réalisme important par rapport aux États-Unis. Et donc, une conséquence européenne, c'est-à-dire l'Allemagne va s'investir davantage dans le renforcement de l'Europe en matière de défense et le fera grâce à ces dépenses très importantes qui vont mener l'Allemagne à être la plus grande armée conventionnelle du continent. Donc ça, c'est une logique qui est bien expliquée dans le discours. En France, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'interprétations qui voyaient un nouveau... peut-être souverainisme même, j'ai vu le mot gaullisme à l'allemand émerger de ce discours. Et je ne peux pas partager cette analyse parce que l'Allemagne comprend parfaitement, et le chancelier l'a dit à plusieurs reprises, que l'Allemagne doit rester ancrée au sein de l'Union européenne, doit privilégier la coopération avec les 26 partenaires de l'Union européenne, parce que l'Allemagne a besoin du marché intérieur et a besoin de s'intégrer, surtout quand elle deviendra la plus grande armée conventionnelle du continent. Donc on n'a pas du tout oublié les leçons de notre histoire. Maintenant, la tâche politique, c'est de bien expliquer la démarche qui va au-delà des dépenses de défense nationale, mais vraiment une intégration, un nouveau élan d'intégration au sein de l'Union européenne. Et donc, il est très probable que le chancelier s'exprimera sur cette question dans les mois à venir, parce que c'est l'élément qui manque un peu. Et là, la relation franco-allemande deviendra très importante pour donner, disons, une logique opérationnelle à ces idées, parce qu'il faut avoir des partenaires avec qui on peut mettre en œuvre un agenda européen.
Néanmoins, ce qui a été annoncé, c'est l'achat à nouveau d'F-35 américains. Donc, cette idée d'investir davantage, de construire davantage une défense européenne moins dépendante des États-Unis, Daniela, ça n'en prend pas vraiment le chemin, là.
Il y a une différence de lecture entre la France et l'Allemagne, notamment sur cette période de transition. Donc, l'objectif est très clair. Il faut avoir une souveraineté européenne en matière de défense, technologique, etc. Donc, est-ce qu'on peut la déclarer aujourd'hui et agir en conséquence? Là, la lecture à Berlin est très clairement non. Il nous faut des avions, on peut les acheter, le F-35 est le modèle que le gouvernement actuel préfère à cause du rôle que l'Allemagne a dans la défense nucléaire avec les Américains. En même temps, je pense qu'il est très très important, c'est pour ça que le projet SCAF doit être résolu au niveau politique très rapidement avec un message clair. Comment est-ce qu'on voit l'avenir de l'avion, et si l'avion n'est pas poursuivi, quels sont les autres projets de coopération européenne? Je pense que c'est ça le message politique qu'il nous faut maintenant pour rendre crédible cette double démarche de ne pas se désinvestir de la relation avec les États-Unis tout de suite, mais en construisant en même temps la souveraineté européenne en matière de défense. Et donc, je sais que la lecture en France est une autre. Il faut agir vite, il faut tout de suite acheter européen. Et à mon avis, l'Allemagne peut faire plus d'efforts, ça c'est très clair. Mais il y a quand même une lecture, notamment pour cette phase transitoire, où ces projets transatlantiques sont encore, du point de vue allemand, très importants.
Camille Grand, vu de Bruxelles, on comprend désormais que l'administration Trump ne va pas ménager ses menaces et même ses mesures contraignantes pour empêcher les Européens, en fait, de matérialiser cette préférence européenne en matière d'achat de défense. Il semblerait que le ton monte depuis quelques jours.
Alors, effectivement, il y a une démarche officielle de l'administration américaine pour essayer de convaincre l'Union européenne de ne pas intégrer de logique de préférence européenne dans les achats d'armement financés par l'Union européenne. Ce qui est doublement paradoxal. C'est paradoxal parce que les Américains disent dans la même phrase « dépensez beaucoup plus pour votre défense et achetez américain », ce qui peut se discuter parce que chaque gouvernement et les Européens peuvent dire qu'ils souhaitent, quitte à dépenser beaucoup plus, donner une partie ou une grosse partie de cet argent à leur industrie, d'une part, et d'autre part, il y a une sorte de paradoxe dans le fait que les États-Unis indiquent que les Européens sont en charge de la défense conventionnelle de l'Europe, mais qu'ils doivent le faire avec des armes américaines. Et de ce point de vue-là, il y a une sorte d'injonction contradictoire qui pose un vrai problème et qui va être compliqué à résoudre parce qu'il y a encore une vraie dépendance d'un certain nombre d'armées européennes à des équipements américains. et que donc il y a effectivement le débat que Daniela évoquait entre ceux qui disent à court terme on doit vivre avec une forme de dépendance à l'égard des États-Unis et ceux qui poussent dans les institutions européennes ou à Paris pour aller plus vite vers des solutions européennes qui, par ailleurs, existent à la fois au plan technologique, industriel. Et donc, c'est pas comme si c'était impossible, mais ça demande plus de volonté politique et un investissement dans des solutions européennes aujourd'hui et pas à un horizon plus éloigné. Donc, il y a une tension qui se manifeste ici et avec une administration américaine qui n'est pas très cohérente dans ses demandes puisque cet appétit commercial est un peu en contradiction avec le deuxième message qui est « Occupez-vous de votre défense de manière à libérer des moyens américains ».
Précisément, le Eldridge Colby, qui est le secrétaire d'État à la guerre, comme on dit maintenant, adjoint ou le sous-secrétaire d'État à la guerre, en dessous de M. Hegseth qui fait ses pompes devant les caméras. Donc, Eldridge Colby était évidemment à Munich où il a développé cette idée d'un OTAN 3.0. Et il est aussi l'auteur de ce document sur la sécurité nationale américaine qui disait très clairement il y a quelques semaines qu'en fait, bon, la Russie, ce n'était jamais qu'une petite économie, donc pas franchement une menace, et qu'en tout cas les pays européens de l'Est, hein, parce qu'il n'est pas question pour Washington de considérer l'Union européenne en tant que telle comme un ensemble digne d'un dialogue construit. Donc, Colby dit, ben voilà, les Européens de l'Est n'ont qu'à s'en occuper, Camille.
Alors, Eldridge Colby fait partie d'une tradition de politique étrangère et de sécurité américaine qui est plutôt ceux qui disent la menace pour les États-Unis est avant tout chinoise, il faut qu'on se concentre sur l'Indo-Pacifique, et au fond, les Européens devraient être capables de traiter le sujet russe par eux-mêmes, avec éventuellement, au-delà de l'horizon, la dissuasion nucléaire élargie américaine. Mais il n'est pas nécessaire que nous dispersions des ressources comme États-Unis sur le continent européen, comme on l'a fait pendant toute la guerre froide. De ce point de vue-là, pour reprendre la discussion de tout à l'heure sur le gaullisme, la redécouverte du gaullisme par les Britanniques, on a chez Colby une forme de mise en responsabilité des Européens qui est d'une certaine manière assez salutaire. Même si elle crée un peu de stress dans le système européen. La question au fond, c'est comment est-ce qu'on s'y prend pour cette OTAN 3.0 ? Est-ce que c'est une OTAN où les États-Unis n'investissent plus de moyens militaires, d'argent, de personnel en Europe, mais veulent garder tous les leviers de pouvoir et continuer à vendre des armes américaines ? Ou est-ce que c'est une OTAN européenne, un véritable pilier européen de l'Alliance Atlantique, dans lequel les Européens sont en responsabilité, prennent progressivement plus de place dans les structures de commandement militaire de cette alliance et assument en réalité le rôle de pilier militaire conventionnel fondamental pour la défense de l'Europe, ce qui n'est pas, ce qui est une demande, me semble-t-il, pas aberrante, de dire qu'il faut que les Européens soient capables de dissuader la Russie et de se défendre face à la Russie sans une aide massive des États-Unis. Et ça, je crois que c'est à la fois possible et il faut s'y préparer parce qu'au fond, les États-Unis, quel que soit le sort de l'administration Trump, ne vont pas revenir à l'OTAN de la guerre froide ou de l'après-guerre froide. On voit une Amérique qui ne va pas investir quel que soit le président des États-Unis, quelle que soit la dominante de politique étrangère dans la future administration américaine, le type d'investissement qu'on a vu jusque sous Biden, par exemple.
Grégoire Rose, à Londres, cette prise de conscience, au-delà de cette relation spéciale que le Royaume-Uni se flatte toujours d'entretenir avec les États-Unis, on a quand même le sentiment qu'il y a véritablement, et vous commencer à nous l'expliquer tout à l'heure, une prise de conscience que désormais les États-Unis ne sont plus l'allié indéfectible et j'en veux pour preuve les pressions ouvertes du mouvement MAGA, d'Elon Musk lui-même, de J.D. Vance, sur le théâtre de la politique intérieure britannique.
Oui, tout à fait. Mais les efforts d'Elon Musk, de ce point de vue-là, sont payants pour M. Farage, puisque en soutenant des hommes politiques, somme toute marginaux, encore plus à droite que M. Farage, eh bien, il parvient à faire passer M. Farage pour une espèce de centriste de droite. Donc, ça fait ses affaires, évidemment. Il était aussi intéressant de voir que, après l'opération spéciale au Venezuela, la réaction de M. Farage était pour le moins mesurée, en tout cas certainement davantage que celle d'Emmanuel Macron, qui, elle, a été ensuite partagée par Donald Trump sur son propre réseau. Donc on voit qu'il y a une espèce de mouvement tectonique. Du reste, je trouve que j'analysais depuis quelques jours la couverture par la presse de cette décision, projet du département d'État de créer une plateforme qui s'appellerait freedom.gov. Donc ce serait un site internet, un portail permettant à tous les Européens, y compris britanniques, de pouvoir accéder à du contenu qui n'est pas légal en Europe et de le faire sans laisser de traces numériques, puisqu'il y aurait une sorte de VPN intégré dans le site qui permettrait à n'importe quel Européen de faire ses choux gras de la désinformation, de contenu raciste, de contenu antisémite, de contenu haineux, interdit dans tous les pays membres de l'Union européenne et au Royaume-Uni. Et ça, même la presse conservatrice le prend extrêmement mal. Il y avait un titre notamment d'une presse même un peu populiste à certains égards, et disant sur cette affaire-là, les Américains continuent de nous humilier. Donc on est en train de voir deux piliers qui sont lentement mais sûrement en train de s'affaisser, et l'un je pense même en train de s'effondrer. L'un c'est évidemment le pilier stratégique de la coopération, celui-ci sera beaucoup plus lent à s'affaisser, puisque, sans rentrer dans le détail, il y a une île de l'océan Indien, les îles Kegos, que la Grande-Bretagne voulait rétrocéder à l'île Maurice. Les Américains ont dit qu'il en est hors de question, donc maintenant le gouvernement est en train de rétro-pédaler en disant non, on va partager l'île, ce sera très utile pour vos opérations en Iran. On s'est en train de faire le Premier ministre s'embourber davantage. Et le second, c'est le côté liberté individuelle. Il voit la politique, dont certains d'ailleurs parlent de propagande, des États-Unis comme une menace à l'équilibre de la société britannique, sans parler des insultes ouvertes dans des discours, notamment à l'ONU, du président américain à l'encontre du maire de Londres, qui est une personnalité politique appréciée globalement de tous bords.
Jaroslav Kujich, à Varsovie, comment a été interprété ce Conseil de la paix qui s'est réuni jeudi dernier à Washington et où le président américain a encore une fois tenu l'un de ses discours assez désordonné dont il a le secret? Je crois que votre gouvernement avait envoyé un observateur, mais il y a évidemment au sein des pays membres de l'Union européenne une bronca contre le fait qu'une commissaire européenne, je crois de nationalité croate en l'occurrence, qui est en charge de la Méditerranée, y était en tant qu'observatrice. Alors évidemment, le Hongrois Orban trônait aux côtés de l'Argentin Milei, et le Hongrois s'oppose auprès de 90 milliards d'euros que l'Union européenne a décidé d'accorder à l'Ukraine pour boucler ses problèmes budgétaires au printemps. Donc comment est-ce que tout cela est perçu à Varsovie?
En effet, c'est le problème de la droite polonaise, parce que c'était pas exactement l'envoyé de notre gouvernement, c'était l'envoyé de notre président du camp de la droite nationaliste souverainiste de Jarosław Kaczyński. Donc l'observateur qui a participé, c'était en effet un étrange moment, parce que très bien, Marco Rubio, après Munich, elle est allée à Budapest, puis à Bratislava, mais pas à Varsovie. Donc, il s'agit d'un moment assez bizarre, parce que le camp Kaczyński vers un atlantisme sans condition, toujours être très près des États-Unis. Mais en effet, c'est maintenant comme la politique, malgré les États-Unis, parfois contre ce qu'on entend officiellement. Et finalement, si on peut prendre un peu de recul, on peut dire que dans les régions, il s'agit d'une situation assez intéressante du point de vue de changements géopolitiques, parce que, en effet, si on regarde de près, le trumpisme d'aujourd'hui encourage, parfois malgré lui, un souverainisme est-européen tourné vers Washington et Moscou à la fois. Budapest et Bratislava, c'est exactement ce qu'ils ont compris, que ça donne plus de poids au niveau de la politique étrangère si on cherche un soutien de la part de Washington et Moscou. Maintenant, en Pologne, pour des raisons historiques, cette équation reste toujours toxique, voire inacceptable. Donc, pour la droite polonaise, c'est un problème majeur et finalement, on regarde qu'il y a une stratégie de sortir de ces pièges, mais pour le moment, il n'y a pas de résultat tangible, parce que la sécurité, avant tout, c'est la politique polonaise. Et puis, on regarde aussi, dans les sondages, la déception vis-à-vis de la politique américaine d'aujourd'hui, qui est considérable. La politique consistant à semer l'incertitude n'amuse pas vraiment les pays voisins de la Russie.
Pays voisins de la Russie, pays voisins de l'Ukraine. La Pologne, Yaroslav, accueille un très grand nombre de réfugiés ukrainiens. Comment évolue l'opinion publique polonaise à leur égard ?
Bah, on a 1 million d'Ukrainiens qui vivent aujourd'hui en Pologne, mais les réfugiés, si j'ose dire, les réfugiés sont devenus des immigrés. Les émotions initiales de la solidarité sont maintenant au passé, la guerre s'est installée au quotidien, donc les pères de citoyens sont assez classiques, marché du travail, niveau de vie, crise démographique, on regarde les Ukrainiens plus comme des immigrés. Pour la première fois, le soutien à l'accueil des réfugiés passe sous les 50%, les réfugiés, je parle des réfugiés ukrainiens. Mais l'aide reste majoritairement soutenue, donc on voit des processus de changement de l'opinion publique, mais en même temps, il faut souligner que l'aide reste soutenue.
Daniela Schwarzer, en Allemagne, où doivent avoir lieu à l'automne prochain, je crois, des élections très importantes dans les Länder, et où on continue de voir une montée de l'extrême droite, de l'AfD, comment est-ce que le sujet ukrainien en tant que tel contribue à alimenter cette extrême droite? Comment les encouragements trumpistes, les encouragements MAGA sont-ils perçus à Berlin ?
Alors, l'AfD, c'est l'extrême droite en Allemagne, a pris une position critique par rapport aux livraisons d'armes vers l'Ukraine, avec un argument assez simple, mais en même temps faux, c'est que si on soutient l'Ukraine avec des armes, ça peut prolonger la guerre, et le parti préfère la paix, et donc il faut arrêter le soutien pour l'Ukraine. La situation actuelle délégitimise cet argument, évidemment, parce que du côté de la Russie, on ne voit pas de vraie volonté de négociation. Et ça rend la situation assez compliquée à l'AFD de soutenir ce discours, parce qu'on voit tous les jours la brutalité des attaques russes dans les médias allemands. Il y a beaucoup de reportages, beaucoup d'images et beaucoup de sentiments de solidarité au sein de la population. Le deuxième élément qui rend le positionnement géopolitique de l'AFD compliqué, c'est notamment la politique de Donald Trump et de MAGA vis-à-vis de l'Europe. Et on a vu après notamment l'escalation du discours de Trump quand il a dit il va saisir le Groenland avec des moyens militaires et il peut mettre des douanes à plusieurs pays européens si ils sont pas prêts à négocier avec lui. L'opinion publique en Allemagne a vraiment changé par rapport à Trump parce que on a vu la brutalité de sa démarche et ce côté irrationnel. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a encore 6 mois pour l'extrême droite en Allemagne de soutenir ses positions, notamment sur la Russie, l'Ukraine, mais aussi les États-Unis. Et en même temps, il y a quand même beaucoup de liens entre MAGA et l'AFD. Il y a des rencontres souvent. On entend que, quand on passe à Washington, on entend que l'AFD est assez présente, que les leaders du parti sont là, qui rencontrent leurs amis MAGA. Mais vu d'un point de vue allemand et opinion publique, c'est une relation qui se présente d'une manière difficile en ce moment. Mais ce qui est vrai, il faut regarder ça de très près. Il y a des liens qui se construisent entre des partis d'extrême droite en Europe et aussi à travers l'Atlantique. Donc il y a un renforcement des échanges, au moins au niveau des leaders du parti et de ceux qui veulent faire chose commune. Mais pour l'instant, ça ne passe pas bien à l'opinion publique allemande.
Angela Merkel, qui était extrêmement discrète depuis, qui avait même annoncé son retrait total de la politique, Daniela, apparemment, elle s'est invitée à Stuttgart depuis hier au congrès de l'Union chrétienne démocrate, qui doit renouveler le mandat de Friedrich Merz à sa présidence. Comment interpréter cette irruption nouvelle d'Angela Merkel?
Oui, elle s'est montrée, en fait, depuis hier, lors de la convention du Parti chrétien-démocrate. C'était le débat pendant les jours avant le début de cette réunion du parti, parce que la question était est-ce qu'elle va prendre la parole, etc. Mais ce n'est pas le cas. Je pense la nouvelle importante est celle de hier, que Friedrich Merz a été réélu président du parti avec un très bon résultat. Et donc, il sort de cette rencontre, même si Merkel, qui était son adversaire politique au sein du parti pendant très longtemps, même si elle était là, ça ne l'a pas affaibli et il sort plutôt renforcé dans une situation qui est très compliquée pour le chancelier, à la fois au sein de son propre parti, mais aussi pour la coalition qui a beaucoup de mal à mettre en marche son programme de réforme qu'ils avaient déjà annoncé pour l'année dernière et qui maintenant est très pressant parce que l'Allemagne a des problèmes de compétitivité, a des problèmes de bureaucratie, etc. Donc il faut réformer et le gouvernement est sous forte pression de le faire.
Et le chancelier est en route vers Pékin, évidemment, pour...
Ça, c'est le sujet de la semaine prochaine.
C'est le sujet.
Oui.
Camille Grand, à Bruxelles, on arrive à la conclusion très provisoire, évidemment, de cette discussion. Mardi prochain, pour marquer ce sinistre quatrième anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, les dirigeants européens, le président du Conseil Costa et la présidente de la Commission von der Leyen seront à Kiev. Et Paris, avec Londres, organisera une visioconférence des 35 pays de la coalition des volontaires. Mais il ne faut pas se leurrer, pour le président ukrainien, Zelensky attend toujours le réveil de l'Europe.
Alors, le réveil de l'Europe vis-à-vis de l'Ukraine, il a en partie eu lieu. Contrairement au début du conflit aux années 2022-2023, c'est maintenant les Européens qui portent presque seuls le soutien et économique et militaire à l'Ukraine, puisque les États-Unis se sont entièrement retirés et que le flux d'armes américaines vers l'Ukraine est désormais payé par les Européens. Donc on est dans une situation où c'est bien l'Europe qui permet à l'Ukraine de continuer le combat, c'est bien l'Europe qui est aux côtés de l'Ukraine politiquement et diplomatiquement aujourd'hui. Ça ne, malheureusement, permet pas à l'Europe d'avoir le dernier mot sur l'issue de ce conflit, puisque Vladimir Poutine préfère évidemment discuter avec un Donald Trump beaucoup plus sensible à sa vision de l'issue du conflit. Donc on est dans un moment intéressant où, au fond, les Européens jouent ce rôle central et ils vont le montrer en étant à Kiev pour l'anniversaire du conflit, pour l'entrée dans cette cinquième année du conflit. Il le montre en mobilisant des ressources pas considérables, mais très significatives en termes de volume d'aide. Hein. L'Union européenne s'est engagée sur 90 milliards d'euros pour l'année prochaine, et beaucoup de pays européens, moins la France que d'autres, mais font des efforts budgétaires très importants pour aider l'Ukraine. Et ça contribue à maintenir l'Ukraine à flot, même s'il y a quelques points où la dépendance vis-à-vis des technologies américaines reste très importante. Je pense aux renseignements d'origine spatiale, aux moyens de télécommunication et aux missiles de défense aérienne où le flux d'armes américaines et le maintien du flux d'armes américaines est vraiment important pour l'Ukraine. Donc on est dans un moment où, au fond, Zelensky essaye d'expliquer d'un côté à Donald Trump qu'il est prêt à négocier, que ça n'est pas de sa faute si ce conflit s'éternise, où Poutine, lui, essaye de se lancer dans des grandes dissertations historiques en essayant de faire porter le chapeau à Zelensky de la faible avancée des négociations, et où les Européens essayent de maintenir l'Amérique dans une position qui ne soit pas trop contraire aux intérêts de l'Ukraine, qui sont très largement liés aux intérêts de l'Europe, et ça, je crois qu'on le dit jamais assez. C'était pas forcément le cas au début du conflit, mais aujourd'hui, le sort de l'Ukraine a un énorme impact sur la sécurité européenne.
Et les opinions publiques en Europe, Camille, souscrivent très largement à ce constat.
Je crois que c'est très largement le cas, et ça, c'est très intéressant dans les sondages, les vagues de sondages qui sont faites par ECFR, par d'autres institutions, que encore une fois, avec l'exception de la Hongrie d'Orban, on voit une Europe qui se réveille, qui n'a plus tellement confiance dans des Européens qui n'ont plus tellement confiance dans l'Alliance américaine et qui comprennent que le sort de l'Ukraine est vraiment important pour leur propre sécurité. Donc on a un vrai réveil des opinions publiques sur ce sujet qui ne voit plus, même s'il y a une forme parfois de lassitude, notamment sur la question des efforts financiers, mais l'engagement des Européens et la clarté des Européens au nord, à l'est et à l'ouest du continent est vraiment présente.
Eh bien, merci. Merci beaucoup à vous quatre. Merci pour ce tour d'Europe. Donc, avant l'entrée de l'Ukraine en guerre pour la cinquième année consécutive. Camille, vous avez publié pour le Conseil européen des relations internationales un papier sur les enjeux de la défense de l'Europe avec moins d'Amérique, et vous avez co-signé avec Daniela Schwarzer, ça doit paraître dans quelques jours, un rapport pour Harvard sur le nouveau marché transatlantique, les arguments pour construire un pilier européen puissant. Daniela, vous avez de votre côté publié l'été dernier en anglais un papier sur la fin de la complaisance allemande, c'est sur le site de Project Syndicate. Grégoire, vous avez publié il y a quelques jours sur le site de Chatham House un papier sur la manière pour l'Europe d'accomplir ou de réussir sa souveraineté, intégration ou dérégulation, comme on dit en franglais. Et Jaroslav Puich, vous avez publié dans Le Monde au début de ce mois un papier sur la façon dont deux Occidents, désormais l'Europe et les États-Unis, chacun de leur côté, développent des modèles politiques distincts. À la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, à la technique Jean-Guilain Meige, Théa Corlaire et la documentation de Radio France m'ont aidé à préparer cette émission. Dans un instant, bien sûr, Marina Carrère-Dancausse et ses carnets de santé. Très bon week-end et à samedi prochain.